franceinter.fr.
Rhys, on va à présent accueillir nos chroniqueurs habituels. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Patrick.
Thomas Legrand, bonjour Thomas.
Patrick.
Et accueillir aussi le premier invité que vous avez choisi, Rhys et Coco, le journaliste écrivain algérien Kamel Daoud, qui est en ligne d'Oran. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. D'abord, est-ce que vous avez un message pour l'équipe de Charlie qu'on accueille ce matin, un an après?
Écoutez, bon, d'abord, je les remercie de m'avoir invité. Maintenant, pour le message, je pense que... qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus simple, de plus clair, que de continuer à dessiner malgré ce qu'on veut vous faire dire, malgré ce qu'on veut trouver à vos dessins, malgré ce qu'on veut interpréter et surinterpréter, continuer à dessiner. Pour moi, les choses sont claires. Les dessinateurs ne tuent personne, donc je leur demande de continuer à dessiner, tout simplement.
Rhys, Coco, je vous laisse avec Kamel Daoud.
Oui, une question. Souvent, on nous dit que depuis un an, il est en train de se passer en France ce qui s'est tout doucement mis en place en Algérie dans les années 90. Tout doucement, les intellectuels, les journalistes sont menacés. Est-ce que vous pensez que c'est comparable?
Oui, je pense que c'est comparable, mais à plus grande échelle. Ce qui se passe maintenant en France se passe dans le reste du monde. Je pense qu'on est dans une plus grande confrontation entre barbarie et culture, entre humanité et inhumanité, entre mort et vie, entre envie d'être libre et désir de soumettre les autres. Je pense que c'est quelque chose qui se passe un peu partout. Nous, les Algériens, nous regardons souvent les drames du monde comme une sorte de remake sur ce que nous avons vécu à l'époque dans la solitude, sans YouTube, sans Internet, sans émission, sans partage et sans compassion des autres. Mais je pense que l'équation est la même. Vous avez des fascismes qui en veulent à la culture, à la différence, à la liberté. Et en France aussi, vous réagissez parfois avec les mêmes faiblesses que nous, les Algériens, à cette époque-là. C'est-à-dire clivage, certaines élites qui s'appartiennent sur des détails alors que c'est le bateau qui risque de sombrer, des incompréhensions, des guerres entre champs éditoriaux, entre familles politiques, alors que l'essentiel n'est pas là. Donc je pense que vous êtes en train de partager une partie de notre histoire, et une partie de nos faiblesses, et une partie de nos myopies et une partie de nos résistances.
Coco.
Dans les faiblesses dont vous parlez, est-ce qu'il y a, par exemple, l'autocensure fait partie de quelque chose qui s'installe en France? Est-ce qu'il y a de l'autocensure en France aujourd'hui?
Je n'aime pas m'impliquer dans les polémiques françaises parce que je ne suis pas français, je ne vis pas là-bas. Mais j'avais parlé il y a une année presque dans cette même émission de cette collection de tabous en France qui est assez extraordinaire. Il y a de l'autocensure chez vous. Pour des raisons, je ne sais pas, de décroissance politique, de communauté, il y a tout à la fois des excès qui sont parfois impardonnables et totalement inutiles et contre-productifs, et aussi des censures et de l'autocensure. Elle est due au fait qu'on veut peut-être être plus humain, plus humaniste, plus compréhensif, parfois au manque de courage aussi. Et parfois parce que il y a des mécanismes d'interdit qui s'installent de plus en plus chez vous. Je le constate. C'est assez désolant, mais cela se ressent.
Est-ce que c'est de l'autocensure ou est-ce que c'est pas simplement de la peur, pour dire les choses crûment, Rhys et Coco, est-ce que vous vivez vous-même avec de la peur ou autour de vous la peur que ça recommence?
Il y a des gens, oui, qui sont dans cette état d'esprit-là, mais c'est pas non plus injustifié, on sait pas ce qui peut se passer demain, tout peut recommencer, donc on a un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu le cul entre deux chaises, soit dans une espèce de vision un peu trop optimiste, tout va aller mieux, ou alors on sombre dans une espèce de parano, on voit le danger partout, donc c'est vrai que c'est difficile de trouver la bonne position pour continuer à vivre correctement, librement, en étant fidèle à ses idéaux, sans sombrer dans la naïveté ou la paranoïa, quoi.
Pour être très concret, Charlie Hebdo a reçu beaucoup de dessins et de propositions de candidatures de dessinateurs après l'attaque.
Oui, il y en a eu pas mal. Alors c'est vrai que on a ouvert tout très vite un compte Gmail, en fait une adresse mail sur laquelle les gens ont postulé. Le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait il y avait beaucoup de travaux qui étaient un petit peu amateurs, des gens qui n'étaient pas vraiment professionnels et qui envoyaient des dessins pour soutenir et qui espéraient peut-être pouvoir être publiés. Mais dessinateur de presse, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours, en trois semaines après un attentat. Donc on a pu quand même trouvé un dessinateur qui s'appelle Pierrick Join et qui aujourd'hui est dans l'équipe avec nous. Voilà.
Iris.
Oui, puis il y a des dessinateurs qu'on a sollicités et qui sont craintifs, qui le disent franchement. Ils se disent, si je suis demain labellisé dessinateur de Charlie Hebdo, qu'est-ce qui va m'arriver dans mon quartier, parfois même dans mon quartier, voilà. Donc c'est des craintes et on ne sait pas très bien quoi répondre à ça.
Léa Salamé.
Vous les entendez, vous les ressentez, ces faiblesses, ce manque de courage dont parle Kamel Daoud ces derniers mois, ces dernières semaines de la société française?
Ces faiblesses, je dirais... comment dire, ces hypocrisies, c'est vrai qu'on a, c'est toujours très délicat d'aborder en fait la question de la religion, du religieux dans une société démocratique, laïque. Là, hier, le président de la République a accueilli les autorités religieuses comme si c'était indispensable. Je sais pas moi si il faut donner autant de place aux religieux dans une société qui se veut moderne. Voilà, c'est la question que je me pose. J'en suis pas convaincu.
Bah, peut-être poser la question à Kamel Daoud, ce qu'il en pense. Est-ce qu'on accorde trop de place aux religieux, aux religions en France?
Je crois que oui, en France et ailleurs. On est maintenant dans des positions où les instances religieuses sont devenues des instances consultatives automatiques. C'est-à-dire qu'on n'ose plus rien faire sans se référer aux religieux, penser ce que vont penser les religieux, prévoir ou attendre la réaction des religieux. Je pense qu'on est dans une sorte de glissement à la limite mondiale qui est assez néfaste. On est dans des positions où la liberté se justifie sans cesse. Et ça, c'est assez malheureux. Je ne le comprends pas. Il faut revenir à l'essentiel. Une religion, c'est une manière de chercher Dieu, de le trouver, de croire l'avoir trouvé. Je ne vois pas en quoi cela maintenant, cela doit justifier cette sorte d'extension du domaine du religieux qui devient un champ d'autorité permanente maintenant. C'est assez frappant. J'ai suivi un petit peu les polémiques sur la une de Charlie la dernière. Et je trouve quand même assez extraordinaire, je veux dire. Les gens se représentent Dieu et parlent en son nom. Pourquoi d'autres ne peuvent pas le dessiner et se représenter cette représentation? Pourquoi on est dans cette polémique qu'on nourrit et qu'on justifie et qu'on trouve tout à fait normal? Mais je trouve ça incroyable. Pourquoi certains se sont délégués de Dieu pour pouvoir le défendre et parler à sa place et défendre et poser des lois? Je ne comprends pas ceci. Et je ne comprends pas qu'on puisse l'accepter et le normaliser en plus.
Tant qu'ils se contentent de parler, ça va. C'est quand ça tire que ça devient un problème aussi plus grave, en tout cas. Thomas Legrand.
Oui, c'est une question pour Kamel Daoud et aussi pour nos invités. Est-ce que l'état d'urgence ou les nouvelles dispositions en faveur de la police font partie de cet affaiblissement dont Kamel Daoud parlait, de cette réaction post-attentat qui peut faire ressembler la France, non pas l'Algérie des années 80, mais au moins ce glissement. Est-ce que ça fait partie de cette pente, la pente sécuritaire?
Écoutez, c'est une pente, mais en même temps, elle est inévitable. Je pense que lutter contre le terrorisme en se croisant le bras, ça n'existe pas. Il faut une réponse sécuritaire. Même si on n'est pas d'accord, même si elle suppose une privation de liberté, même si elle suppose des excès, des dépassements, et ça sera le cas, parce que c'est une tentation permanente, je pense que la réponse sécuritaire s'impose d'elle-même. Les politiques ne peuvent pas se permettre de ne pas répondre de manière sécuritaire. Mais ce n'est pas la seule réponse, et ce n'est pas la bonne réponse si elle se limite au sécuritaire. C'est une évidence de le redire et de le redire encore une fois, mais c'est ainsi. C'est-à-dire, on lutte contre le djihadiste ou le terroriste maintenant, mais il faut empêcher que ça se reproduise, il faut empêcher que le terroriste vienne au monde, il faut empêcher que les gens basculent vers ce fascisme-là. C'est ça l'essentiel, parce que sinon, on va tourner en rond, on va continuer à condamner, à pleurer, à s'élever, à protester, et finalement à être confronté au même... Un terroriste qui naît, qui renaît, qui revient au monde, etc. Donc oui, la réponse policière est justifiée, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il s'agit de quelque chose d'irréparable qui s'appelle la vie. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas répondre ainsi. Mais en même temps, est-ce qu'il ne s'agit pas de tirer profit de l'expérience des autres en se disant, on développe une réponse sécuritaire, mais essayons quand même d'éviter les excès et les dépassements et les tentations que cela suppose.
Riz, la réponse sécuritaire est inévitable, dit Kamel Daoud. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors que je vois dans ce dernier numéro, dans ce numéro spécial, un de vos dessins, 2016, année du survivre ensemble, où on voit des Français apeurés, entourés par des policiers de partout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on est en train de toucher à ce que nous sommes, à notre démocratie, avec ce tournant sécuritaire, en instaurant une espèce d'état d'urgence de droit commun? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous inquiète? Ou est-ce qu'on est obligé d'en passer par là?
C'est un peu le piège dans lequel tous les types de terrorisme depuis toujours ont voulu plonger les démocraties, c'est-à-dire d'utiliser la violence pour qu'en face une réponse violente aussi ou contraignante se mette en place. Maintenant, c'est vrai que moi je suis dans une position un peu difficile parce que je bénéficie d'une protection policière, donc c'est un peu inconfortable.
Vous êtes pratiquement comme sur le dessin. Là.
C'est un peu ça, oui, ouais, c'est vrai. Et donc, on est obligé de vivre avec. Bon, il faut bien s'entendre avec eux, ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais ceci dit, bon, moi j'ai de la chance, ils sont plutôt sympas.
Merci à vous, Kamel Daoud, d'avoir répondu depuis l'Algérie. Et Coco Eris, on vous retrouve tout à l'heure. Enfin, vous restez avec nous parce que là, il y a des gens qui se préparent autour de nous. C'est Charline qui arrive bien entourée. Et puis, on vous retrouve avec une autre invitée qui sera Elisabeth Badinter tout à l'heure à 8h20. Il est 8h moins 3.